VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à VOA Afrique. Nous commençons par la Somalie. Les insurgés somalistes somaliens Shebab ont confirmé aujourd'hui avoir été la cible de frappes aériennes américaines samedi dernier, tout en réfutant le bilan de 150 combattants tués avancé par le Pentagone. Ce que l'ennemi affirme à propos des victimes des frappes aériennes est complètement faux, a déclaré par téléphone à l'AFP un commandant Shebab, Cheikh Ibrahim Abou Ahmed. L'ennemi a tiré plusieurs missiles dans la soirée de samedi et il y a eu des martyrs dans les rangs des Moudjahidine, a précisé le commandant, qui, selon ses dires, se trouvait sur place au moment de l'attaque. Pour sa part, le Pentagone avait annoncé hier avoir tué plus de 150 combattants Shebab dans des frappes menées par des drones et des avions de combat contre un camp d'entraînement Shebab situé à environ 200 km au nord de Mogadiscio. Les combattants Shebab s'entraînaient pour une attaque de grande ampleur. Ils étaient sur le point de quitter le camp et représentaient une menace imminente pour les États-Unis et les forces de l'Union africaine en Somalie, a déclaré un porte-parole du Pentagone, Jeff Davis, en justifiant le bombardement. Plusieurs habitants de la région de Iran, centre de la Somalie, ont confirmé à l'AFP avoir entendu des explosions samedi visant la localité d'El Dibi sous contrôle des Shebab. On passe maintenant à l'Afrique centrale, au Congo-Brazzaville. Le candidat à l'élection présidentielle du 20 mars, Jean-Marie Michel Mokoko, dénonce le harcèlement judiciaire dans le déroulement de sa campagne électorale. Ce général, ancien collaborateur du président Denis Sassou Nguesso, mais passé maintenant à l'opposition, fait en effet l'objet de poursuites de la part des services de police, alors qu'il doit aller dans les départements pour battre campagne. Le général Mokoko a demandé que ces poursuites soient suspendues jusqu'à la fin du processus électoral. Et élection présidentielle du 10 avril au Tchad, le Conseil constitutionnel a finalement publié la liste définitive des 14 candidats au scrutin présidentiel du 10 avril. Le président Idriss Déby Itno, qui brigue son cinquième quinquennat, aura notamment comme adversaire le leader de l'opposition Salih Kebzabo, l'ancien premier ministre Jim Rangar d'Adnadji et le député de l'opposition Gali Gata Ngote, entre autres. L'opposant historique Yorangar Ngarleji fait partie de la dizaine de candidats écartés par le Conseil constitutionnel. On passe maintenant aux élections législatives en RCA. 46 députés ont été élus dès le premier tour. 94 sièges sont en ballottage. Leurs occupants seront élus au second tour du scrutin qui aura lieu à une date ultérieure. C'est ce qui ressort des déclarations de l'ANE, l'Autorité nationale des élections. Afrique de l'Ouest maintenant, les élections présidentielles au Bénin. Le second tour de l'élection présidentielle béninoise opposera le premier ministre Lionel Zinzou à l'homme d'affaires Patrice Talon, selon les résultats annoncés aujourd'hui par la Commission électorale nationale, la CENA. Lionel Zinzou a obtenu 856 218 voix, soit 28,44% des suffrages. Patrice Talon en recueille 746 798, soit 24,80% des voix. Ils sont suivis de très près par Sébastien Djavon, l'autre homme d'affaires influent, qui a obtenu 693 492 voix, soit 23,03% des suffrages. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à la presse Emmanuel Tiando, le président de la Sénat. Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue. Il y aura donc un second tour qui verra s'affronter M. Zinzou et Talon, a précisé M. Tiando, en notant que ces premiers résultats ne sont que des grandes tendances, telles que le prévoit l'article 15 du Code électoral béninois. C'est maintenant à la Cour constitutionnelle de prononcer les résultats provisoires officiels puis définitifs. Suite à cela, un second tour doit être organisé dans un délai de 15 jours, a souligné M. Tiando. Au total, 33 candidats ont pris part au scrutin. Les deux autres personnalités qui figuraient parmi les favoris, l'économiste Abdoulaye Biyo Tchane et l'ex-premier ministre Pascal Irénée Kopaki, ont obtenu respectivement 8,79% et 5,85% des voix. Le président Thomas Boni Yayi ne se représentait pas au terme de deux mandats, conformément à la constitution béninoise. A noter que la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, avait déployé 120 observateurs et 16 experts pendant le scrutin. La CDAO a constaté lundi soir l'absence d'incidents majeurs durant tout le processus électoral qui s'est déroulé, selon l'organisation sous-régionale, dans des conditions acceptables de liberté et de transparence. Quelques réactions au Bénin. Côté opposition, Oswald Omeki, porte-parole de Patrice Talon, se dit heureux que les Béninois aient compris le nouveau départ que Patrice Talon propose. Nous sommes disposés à discuter avec tout le monde et surtout avec Sébastien Javon, qui a fait un très beau score en vue du second tour, a ajouté Oswald Omeki. Côté camp présidentiel, le vice-président de l'Assemblée nationale, Eric Koundété, porte-parole de Lionel Zinzou, s'est dit satisfait de la première place de son candidat, même s'il aurait aimé, dit-il, qu'il remporte un peu plus de voix. Monsieur Koundété a notamment déploré une trop faible mobilisation des électeurs dans certaines régions favorables à son candidat. On passe maintenant au Sénégal. La campagne pour le référendum du 20 mars est déjà lancée. Le président Macky Sall fait l'objet de vives critiques après son revirement, selon ses détracteurs, sur la réduction de son premier mandat. Les partisans du oui, comme ceux du non, affûtent leurs armes en vue de cette consultation populaire. Vous écoutez VOA Afrique en direct de Washington. Merci de votre attention. On passe maintenant au Mali. 200 jeunes gens qui appartenaient à des groupes djihadistes ayant multiplié les attaques depuis 2015 dans la région de Mopti, dans le centre du pays, se sont engagés à quitter ces mouvements au terme d'une opération de sensibilisation. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui à l'AFP des initiateurs de cette campagne. L'opération, qui n'a pas été médiatisée, a impliqué responsables gouvernementaux, élus locaux, chefs religieux, associations et notables de cette région. Mopti est à la lisière du nord du pays, contrôlé pendant près de 10 mois entre 2012 et 2013 par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, dont celui de l'ex-rebelle Touareg Irag Iyad Ag Ali, en Sardine. Les jeunes qui ont été déradicalisés appartiendrait au FLM, un allié dans Sardine. Plusieurs attaques perpétrées dans le nord et le centre du pays ont été revendiquées par ce groupe. D'après Ousmane Diallo, un des membres du collectif, certains des jeunes ont fourni des précisions sur des attaques commises par les groupes islamistes auxquels ils appartenaient, tandis que d'autres agissaient en groupe isolé, s'en prenant à des civils et des symboles de l'État. Afrique du Nord maintenant, le gouvernement tunisien a jugé aujourd'hui avoir remporté une bataille après avoir repoussé des attaques sans précédent des djihadistes près de la frontière avec la Libye. Selon une estimation préliminaire, une cinquantaine de djihadistes ont attaqué hier à l'aube une caserne de l'armée, un poste de police, un bâtiment de la garde nationale à Ben Gherdan, tout près de la Libye, a déclaré le premier ministre Habib Essid lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Le bilan définitif de ces attaques sans précédent par leur ampleur et leur niveau de préparation est de 36 extrémistes tués, ainsi que 12 membres des forces de sécurité et 7 civils, a souligné M. Essid. Le chef du gouvernement a précisé que selon les données préliminaires, la majorité des assaillants tués et arrêtés étaient des Tunisiens, sans écarter la possibilité d'étrangers parmi eux. Ils ont compris, les djihadistes, que la Tunisie n'était pas facile, que ce ne serait pas une promenade de santé d'établir un émirat à Ben Gherdan, a ajouté Habib Essid. M. Essid avait affirmé que le but des attaques était d'instaurer un émirat de Daech de l'État islamique dans cette ville de 60 000 habitants. Le ministère tunisien de l'Intérieur a indiqué plutôt que les forces de l'ordre continuaient toujours à ratisser la région de Ben Gherdan. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.